Le lendemain, 2 août, à la première heure, Miss Campbell, accompagnée des frères Melville, suivie de Patridge et de Dame Bess, montait dans le train à la station du Railway d'Ellensburg. Il fallait aller prendre à Glasgow le bateau à vapeur, qui, dans son service quotidien de la métropole à Oban, ne fait point escale à ce point de la côte. À 7 heures, le train déposait les 5 voyageurs à la gare d'arrivée de Glasgow et une voiture les conduisait à Bromillow Bridge. Là, le steamer Columbia attendait ses passagers. De ses 2 cheminées s'échappait une fumée noire qui se mêlait aux brumes encore épaisses de la Clyde. Mais toutes ces vapeurs matinales commençaient à se résoudre et le disque plombé du soleil se nuançait déjà de quelques teintes d'or. C'était le début d'une belle journée. Miss Campbell et ses compagnons, après que leurs bagages eurent été mis à bord, s'embarquèrent aussitôt. En ce moment, la cloche envoyait au retardataire son 3e et dernier appel. Puis, le mécanicien balança sa machine. Les palettes des roues, mues en avant, en arrière, soulevèrent de gros bouillons jaunâtres. Un long coup de sifflet retentit, les amarres furent larguées et le Columbia prit rapidement le fil du courant. Dans le Royaume-Uni, les touristes auraient mauvaise grâce à se plaindre. Ce sont de magnifiques bâtiments que les compagnies de transport mettent partout à leur disposition. Il n'est si mince cours d'eau, si petit lac, si infime golfe, qui ne soit sillonné chaque jour d'élégants bateaux à vapeur. Rien d'étonnant donc à ce que la Clyde soit des plus favorisées sous ce rapport. Aussi, le long de Bromillow Street, au cale de Steamboat Quay, les steamers, leurs tambours peints des plus vives couleurs où l'or le dispute au cinabre, stationnent-ils en grand nombre, toujours fumant, prêts à partir en toute direction. Le Columbia ne faisait point exception à la règle. Très long, très effilé de l'avant, très fin dans ses lignes d'eau, pourvu d'une machine puissante actionnant des roues d'un large diamètre, c'était un bateau de grande marche. À l'intérieur, tout le confort possible dans ses salons et ses salles à manger. Sur le pont, un vaste spardeck abrité d'une tente au léger lambrequin, avec des bancs et des sièges aux coussins moelleux, véritable terrasse entourée d'une élégante rambarde sur laquelle les passagers se trouvaient en belle vue et en bon air. Les voyageurs ne manquaient pas. Ils venaient un peu de partout, aussi bien de l'Écosse que de l'Angleterre. Ce mois d'août est par excellence le mois des excursions. Entre toutes, celles de la Clyde et des Hébrides sont particulièrement recherchées. Il y avait là de ces familles au grand complet, dont l'union avait été généreusement bénie du ciel. Des jeunes filles très gaies, des jeunes gens plus calmes, des enfants habitués déjà aux surprises du tourisme, puis des pasteurs toujours fort nombreux à bord des steamers, le haut chapeau de soie sur la tête, la longue redingote noire à collet droit, le liseré de la cravate blanche au châle du gilet. Puis plusieurs fermiers coiffés de la toque écossaise et rappelant par leurs allures un peu lourdes les anciens bonnets de Laird's d'il y a quelques 60 ans. Enfin, une demi-douzaine d'étrangers, de ces Allemands qui ne perdent rien de leur poids, même au dehors de l'Allemagne, et 2 ou 3 de ces Français que n'abandonne jamais leur amabilité géniale, même hors de France. Si Miss Campbell eût ressemblé à la plupart de ses compatriotes, qui s'assaient en quelques coins dès qu'ils sont embarqués et ne bougent de tout le voyage, elle n'aurait vu des rives de la Clyde que ce qui serait passé devant ses yeux sans même remuer la tête. Mais elle aimait à aller, à venir, tantôt à l'arrière du steamer, tantôt à l'avant, regardant les villes, bourgs, villages, hameaux dont ses rives sont incessamment semées. D'où cette conséquence que le frère Sam et le frère Sib, qui l'accompagnaient, lui répondant, approuvant ses observations, confirmant ses remarques, ne devaient pas prendre 1 heure de repos entre Glasgow et Oban. D'ailleurs, ils ne songeaient point à s'en plaindre. Cela rentrait dans leur fonction de garde du corps et ils suivaient d'instinct en échangeant quelques bonnes prises qui les maintenaient en belle humeur. Dame Bess et Patridge avaient pris place à la partie antérieure du spardeck, causaient amicalement du temps passé, des usages perdus, des vieux clans, des organisations. Où étaient ces siècles d'autrefois à jamais regrettables? À cette époque, les purs horizons de la Clyde ne disparaissaient pas derrière l'expectoration carbonifère des usines. Ses rives ne retentissaient pas du coup sourd des marteaux-pilons. ses eaux calmes ne se troublaient jamais sous l'effort de quelques milliers de chevaux vapeur. Ce temps reviendra, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense, dit Dame Bess d'un ton convaincu. Je l'espère, répondit gravement Patridge, et avec lui, nous reverrons les vieilles coutumes de nos ancêtres. Cependant, les bords de la Clyde se déplaçaient rapidement de l'avant à l'arrière du Columbia comme les sites d'un panorama mouvant. À droite se montrèrent le village de Patrick, sur l'embouchure du Kelvin, et les vastes docks destinés à la construction des navires en fer qui font vis-à-vis à ceux de Govan, situés sur la rive opposée. Que de bruit de ferraille, que de volutes de fumée, de vapeur, si déplaisant aux oreilles et aux yeux de Patridge et de sa compagne. Mais tout ce fracas industriel, tout ce brouillard de charbon allait cesser peu à peu. À la place des chantiers, des cales couvertes, des hautes cheminées de fabrique, de ces gigantesques échafaudages de fer qui ressemblent aux cages d'une ménagerie de mastodontes, apparurent de coquettes habitations. Des cottages enfouis sous les arbres, des villas du type anglo-saxon dispersées sur les collines vertes. C'était comme une succession ininterrompue de maisons de campagne et de châteaux qui se déroulaient d'une cité à l'autre.